Une fois de plus, ô notre Dieu, dans cette merveilleuse nature dont tu es l'auteur, le créateur, nous venons t'adorer et te bénir, conscients que tu nous regardes et que tu nous aimes, et nous avons le témoignage de ton amour dans le don ineffable de ton Fils. Et tu nous l'as donné non pas quand nous avons fait des progrès dans ta connaissance, tu nous l'as donné quand nous ignorions tout de Dieu, de sa personne, de sa nature. Tu as voulu te révéler à nos âmes et tu n'as pas seulement consenti de nous donner une expression de ta volonté sur des tables de pierre. Tu as voulu que quelqu'un descende du ciel ayant ta loi écrite au fond de ses entrailles pour que nous puissions voir un homme vivre comme Dieu le voulait. Et nous te remercions parce que Jésus a été cet homme. Et cet homme, nous avons découvert que c'était ton propre Fils, que c'était toi-même incarné. Et nous te bénissons de nous avoir aimés d'un tel amour. Toi, notre Créateur, tu es devenu notre Rédempteur. Et maintenant, tu nous as donné ta parole pour que nous puissions apprendre à te connaître et grandir dans ta connaissance. Qu'il en soit ainsi, par la toute-puissance de ton esprit agissant au milieu de nous, éclairant notre intelligence, touchant notre conscience et notre cœur, pour que dans la vie quotidienne, ta parole et une action directe sur toute notre existence. En Jésus. Amen. Eh bien, nous continuons notre thème « Vous serez mes témoins » et en ce matin du 4 juillet 1989, nous avons à considérer ou à survoler les chapitres 6 et 7 des Actes, soit 75 versets. Quelqu'un m'a dit hier soir que l'on sentait dans ce camp une résistance à l'Esprit de Dieu. Je vous dirais que je n'ai jamais fait un camp, que ce soit en Suisse, en France, en Belgique, en Italie, où je serai le mois prochain, en Israël, en Afrique, que ce soit la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, où j'étais en 53, ou en Asie, au Cambodge ou au Vietnam, où j'étais en 61, je n'ai jamais fait un camp dans tous ces pays sans éprouver, à un moment donné, cette résistance. Je me souviens, après la guerre, on avait un camp international en Suisse. J'étais à Rome quand on m'a téléphoné pour me demander de venir parce que c'est un camp qui durait un mois et notre ami Stacy Wood, que certains ont connu, qui est auprès du Seigneur, me suppliait de venir pour une semaine, parce qu'il y avait là une résistance extraordinaire. J'y suis allé, et en effet, la résistance était telle qu'on se demandait ce qu'il y avait. Une résistance, mais pendant les réunions, on sentait qu'on était contre. Il y avait un groupe de jeunes étudiants en théologie, qui étaient nés sous le régime d'Hitler, et qui était là et qui voulait s'opposer réellement à tout ce que nous apportions. Et un jour, vraiment, alors le soir, on se réunissait entre quelques-uns et on criait au Seigneur, Moi-même, je me demandais, mais est-ce que ça vient de toi? Parce que ça peut aussi venir de nous. Alors, on était sur nos genoux, et un beau jour, ça a craqué. Très tôt le matin, le chef de la bande est venu me trouver en larmes et me dit, Chorazine, je vous demande pardon. C'est vrai ce que vous avez dit, qu'il y a de la résistance. Mais c'est nous qui la faisions. Et les uns après les autres, ils sont venus demander pardon et il y a eu un véritable réveil à la fin de ce camp. Mais c'était un combat. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Nous aimons tous, même ceux qui résistent dans leurs pensées. Faut pas croire quand vous résistez dans vos pensées, pas à moi. Moi, je ne suis rien. Mais à la parole, hein, eh bien, on sent cela, on éprouve cela. Et alors, ce que l'on voudrait, c'est que le Seigneur vous convainque. Nous ne faisons pas des disciples pour nous. Nous sommes au service du Seigneur pour le corps de Christ, tout entier. Alors, je ne suis pas étonné qu'il y ait de la résistance. Il y a toujours dans les camps un moment où cela tourne. Je me souviens en Belgique. J'avais la direction spirituelle, j'avais les réunions, mais un autre ami s'occupait des questions matérielles et il vient me dire, tu sais, ce garçon-là, on n'en veut plus. Il déroute tout le monde, il a une influence néfaste sur les autres. Il faut le renvoyer ce soir. Moi, j'ai intercédé, j'ai dit, écoute, encore un soir. Et voilà que ce garçon s'est converti ce soir-là. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Gérard Payon, que certains connaissent, qui est un évangéliste, qui travaille avec sa femme, qui chante un peu partout, qui visite les prisons, et qui est un des agents de la Ligue en France. Il est même venu au Québec. Gérard et sa femme, avec ses enfants, qui chantent. Peut-être que quelques-uns les ont vus. Eh bien, il a été converti, lui, par ce dernier message que je donnais sur le thème, j'avais traité ce thème, le Christ inconnu. C'est pourquoi je vous disais que tous ces livres que vous avez là, ce sont au fond des prédications, et le Seigneur les a bénis et a transformé certaines vies par ces messages. Ça ne vient pas de moi, c'est le Seigneur qui me les a donnés. Et l'inspiration première de ce Christ inconnu, je l'ai eu en Italie, un jour après le dernier camp de Florence. Je suis allé à Fiesole, qui est une des collines de Florence, et là, dans une petite église, j'ai vu 6 tableaux représentant, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais étranger, et ça m'a tellement impressionné, je connaissais bien le chapitre 25 de Matthieu, que je me suis dit, tu pourrais peut-être faire un camp sur ce thème de Matthieu 25. Quand est-ce que nous t'avons vu nu? Quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim? En tant que vous l'avez fait à un de ces petits qui sont mes frères, vous l'avez fait à moi-même. Et si vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, vous ne l'avez pas fait à moi. Alors, je l'avais reçu du Seigneur, alors après on peut le donner. Mais un message, il faut toujours le recevoir du Seigneur. Et voyez-vous, on ne peut pas venir avec du tout plaqué. C'est pourquoi ce camp, il se construit ici, jour après jour, nuit après nuit. J'essaye de me tenir devant le Seigneur. Mais ce matin, nous avons pu voir que le témoignage n'est pas toujours reçu. Le témoignage de Jésus n'a pas été reçu. Et il a pleuré à la fin de sa carrière. Il n'y a pas d'euphorie à la fin d'un camp. C'est merveilleux, nous avons des résultats. Jésus n'a pas eu ces résultats-là. Et il a pleuré et il a dit, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient point de péché, mais maintenant leur péché demeure. Et il était dans les larmes. Regardez l'apôtre Paul, à la fin de son ministère, nous allons voir tout cela, eh bien, on peut dire, il était tout seul. Il était comme Jésus à la fin de son ministère. et s'ils n'étaient pas attachés à la personne du Seigneur, mais seulement à des résultats visibles, eh bien, ils pouvaient se pendre. Regardez Jérémie, il nous dit qu'après 23 ans, où il s'est levé de bonne heure et a enseigné les Israélites, il n'y avait pas de fruits. Puis, vous le savez, après 23 jours, dans un autre moment, 23 jours après la prédication de quel prophète ? Agé, hein, avec Zacharie, il y a un réveil merveilleux qui se fait. Alors, est-ce que Jérémie était moins spirituel que Agé et Zacharie ? Non. C'était des hommes de Dieu, mais employés dans des temps différents, et ce qui comptait, c'est qu'ils soient fidèles dans le message, même s'ils ne voyaient pas de résultats immédiats. Alors, notre travail, c'est un travail que nous faisons dans la foi. Et ce qui me bouleverse maintenant que mes cheveux ont blanchi, et que j'ai encore ce privilège de vivre alors que je vais mourir à 18 ans, eh bien, ce qui me bouleverse, c'est de voir des gens qui, 50 ans plus tard, nous disent que telle parole les a touchés dans leur jeunesse et que c'est cela qui a été le point de départ de leur vie avec le Seigneur. Et l'on en rencontre beaucoup qui sont dans le ministère, dans le travail du Seigneur. Donc, nous n'allons pas nous décourager. Et si le témoignage n'est pas reçu ici, eh bien, hâte-toi de sortir de Jérusalem, parce qu'il y a d'autres âmes qui ont faim et soif. Autrement dit aussi, si on ne veut pas au Québec, hâte-toi de sortir du Québec. Je t'enverrai ailleurs, vers d'autres camps. Ce n'est pas le travail qui manque, ce n'est pas les portes ouvertes qui manque encore. Et tant que la porte est ouverte et que c'est la porte du Seigneur, nous y entrons. Nous voulons rester disponibles dans la main du Seigneur. Donc, nous sommes ici et nous ne voulons pas nous décourager, même si on sent une résistance. Nous voulons prier et nous vous demanderions à ceux qui connaissent le Seigneur et qui ont peut-être senti aussi cette résistance, pourquoi ne vous rassembleriez-vous pas d'une façon plus ou moins secrète? Mais pour prier, il y a la chapelle en plein air, il y a des lieux providentiels où vous pouvez vous retrouver et intercéder à deux ou trois. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux. Alors hier soir, mes amis, avec le chapitre 5 des Actes, dans ce cas d'Ananias et de Saphira, nous avons eu la preuve que la toute-puissance active du Saint-Esprit ne changeait pas la chair. Si vous n'en étiez pas convaincu, eh bien, vous pouvez être assuré que votre chair n'est pas changée à votre conversion. La chair n'est pas changée par la conversion. La chair reste la chair et nous l'avons jusqu'à notre mort ou jusqu'à la venue du Seigneur parce qu'on n'attend pas la mort, on attend Jésus qui transformera nos corps d'infirmité, ces corps de chair, en la conformité de son corps de gloire selon l'opération de son pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous en aurons alors fini avec la chair. Donc, même juste après la Pentecôte, des gens qui avaient reçu l'onction de l'Esprit et qui avaient confessé le Seigneur ont dû constater que leur chair n'était pas amélioré. Et si nous ne tenons pas, comme chrétiens, notre chair dans la mort, elle se manifeste tôt ou tard dans toute sa laideur. Ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et la chair, nous l'avons jusqu'au bout. Mais nous n'avons plus à vivre selon la chair. Nous ne sommes plus débiteurs à la chair. nous avons maintenant à marcher par l'Esprit. Et si nous marchons, si nous laissons le Saint-Esprit nous conduire, si nous marchons par l'Esprit, par cette force toute puissante, nous n'accomplirons pas les convoitises de la chair. Nous placer simplement devant la loi en disant « Seigneur, je prends l'engagement de suivre tes commandements », eh bien, vous ferez des efforts, mais vous constaterez bien vite que vous n'êtes pas capable de tenir et d'être fidèle à vos décisions. C'est pourquoi, tant que vous êtes seulement en présence de la loi, vous êtes sous la malédiction. La loi vous ordonne, faites ces choses et vous vivrez. Mais comme vous n'avez pas la force et que la loi ne vous donne pas la force, eh bien, vous avez toujours mauvaise conscience. Et quand vous entendez même le Seigneur développer les commandements de Moïse, vous voyez que ça ne suffit pas de suivre la lettre de la loi, d'avoir observé la lettre de la loi pour être en règle. Pas du tout. Alors, mes amis, que nous faut-il? Eh bien, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Il nous faut le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, on n'a pas à le lui demander maintenant. On a à comprendre que le Saint-Esprit est descendu, est venu, s'il a opéré notre conversion, ce que nous devons faire, c'est de lui abandonner notre vie. C'est de le laisser gouverner notre vie. Non pas de lui avoir fait une belle chambre dans notre existence, lui avoir donné la plus belle chambre, mais c'est lui avoir donné les clés de la maison, et même de la cave, et du grenier. Parce que si vous gardez le grenier pour vous, vous y pécherez. Si vous gardez la cave pour vous, eh bien, vous ferez des folies. Gardons cela devant nos pensées. Et demandons au Seigneur que son esprit qui est là puisse vraiment nous remplir. Il n'est pas question de demander une nouvelle Pentecôte, le renouvellement de Pentecôte. Pentecôte est un fait historique. Il y aura, oui, une nouvelle Pentecôte quand le Saint-Esprit aura été retiré avec l'Église. Quand les croyants auront été enlevés, eh bien, ce qui retient la marée d'iniquité qu'on voit dans le monde, bien, sera loin, et alors ce sera l'apostasie dont nous voyons déjà les commencements, l'apostasie planétaire, ce sera le règne de la bête, le règne de l'Antichrist, et alors, sur un peuple qui avait renié le Seigneur, eh bien, le Seigneur opérera, et la prophétie de Joël, qui a eu un commencement d'accomplissement le jour de la Pentecôte, se réalisera en plénitude. Il y aura des signes dans le ciel. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et des songes. Et la puissance du Seigneur se manifestera. Mais dans une chrétienté apostate, ce n'est pas un renouvellement extraordinaire que nous avons à attendre, parce que Dieu ne peut pas bénir une église qui est infidèle. Il ne peut le faire que s'il y a confession de nos péchés dans tous nos milieux, que s'il y a un changement profond et réel pour vivre les derniers jours du temps de la grâce en étant d'authentiques et véritables témoins du Seigneur. Vous serez mes témoins, disait Jésus, au début de l'Église, et je pense qu'il nous exhorte aussi, peu de temps avant l'an 2000, à être ses témoins. Et il nous dit bien quel serait ce temps, un temps où la foi serait en diminution. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Un temps où l'espérance chrétienne serait reléguée Où est la promesse de sa venue? On me dit, est-ce que vous osez encore parler du retour de Christ? Depuis si longtemps qu'on dit qu'il va venir, et il n'est pas venu. Il y a un petit reste qui l'attend. Et puis, c'est aussi la diminution de l'amour. Parce que l'iniquité prévaudra. Et quand je vois cette marée d'iniquité, quelqu'un me disait hier encore qu'on cherche à élever les enfants dans les familles dans la crainte du Seigneur, puis dès qu'on les met à l'école, ils reviennent avec des pensées tout à fait croches, comme vous dites au Québec. Et qui est-ce qui les amène à être si croches? Ce sont ceux qui les enseignent au nom de l'État. Et c'est l'apostasie. Alors, évidemment, vous les parents, si vous ne veillez pas sur vos enfants, et si vous n'êtes pas là pour contrebalancer cette influence pernicieuse que l'on a dans les écoles, eh bien, vos enfants iront dans le monde et feront les choses comme le monde. Et ce qui m'attriste, c'est de voir que maintenant, dans les églises, on regarde ce qui réussit dans le monde et puis on essaye d'imiter. Tiens, ça réussit dans le monde. Eh bien, pour avoir des gens dans notre église, on va faire des choses comme le monde. Ce n'est pas cela, mes frères et sœurs. Vous direz que je suis vieux jeu, que je suis retardé, que je ne vis pas avec mon temps. Oui, je vis dans ce temps, je juge du monde, mais comme n'en usant pas, nous traversons le monde, nous bénissons Dieu de toutes les inventions, de tous les privilèges qui sont à notre portée, nous pouvons les employer, mais nous ne sommes pas des esclaves, et nous ne savons pas, nous savons bien que ce n'est pas la technique, que ce n'est pas les progrès de la science qui vont améliorer le monde. Comme la chair ne s'améliore pas, le monde ne s'améliorera pas. Il va au-devant du jugement, de la colère et qui vient. Et alors, nous avons, dans ce chapitre 5, nous avons vu, donc, en Ananias et Saphira, un couple de l'Église primitive qui a osé mentir au Saint-Esprit. Dieu, par le Saint-Esprit, était présent dans l'Église primitive de Jérusalem. Et les efforts de Satan contre les premiers témoins avaient été vains quand Satan, l'ennemi du Seigneur, s'était montré contre les disciples comme un lion rugissant qui voulait arrêter Pierre et Jean. Il a été vaincu. Alors, ayant échoué comme un lion, Satan a pris une autre forme. Il s'est fait le serpent ancien, et il a introduit le mal dans l'Église. Avant, il hurlait depuis le dehors par les sacrificateurs, les principaux chefs du peuple. Maintenant, il va essayer de corrompre à l'intérieur de l'Église. Mais là, Satan aussi rencontrera la même puissance pour maintenir la sainteté de Dieu, qui est là présent par son esprit. Pierre n'y est pour rien. Pierre est le canal de l'esprit. Pierre est, maintenant qu'il a été brisé, il est abandonné dans la main de Dieu. Et quand ça me frappe, la première apparition du mal dans l'Église, ça a été l'hypocrisie. L'hypocrisie de personnes qui avaient confessé le Seigneur. Et cette hypocrisie s'était manifestée par le besoin de paraître à la hauteur de ceux qui sont dévoués à la cause du Christ. Il y a des gens qui sont vraiment dévoués à la cause du Christ. Alors, oui, on les admire, on parle d'eux, puis on se dit, pourquoi est-ce que je ne ferais pas un peu comme eux? Et on voudrait les imiter. Or, il n'est pas question d'imiter quelqu'un. Il est question de regarder au Seigneur et de devenir les imitateurs de Dieu, de lui laisser notre vie tout entière. Oui, Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, mais comme je le suis du Christ. Il ne faisait pas un paravent entre les âmes et le Christ. Alors, ce que nous avons vu hier, c'est le désir de la chair d'imiter la nature divine. Barnabas a fait quelque chose selon l'Esprit de Dieu. Et on a voulu l'imiter. Alors que c'était la chair qui se mettait en avant. Et vous avez vu comment Satan a-t-il rempli ton cœur? Et il était rempli de quoi, ce cœur d'Ananias? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Et l'amour de l'argent conduit à l'hypocrisie. Et Ananias a perdu le sentiment de Dieu. Il a pensé, mais ça, c'est pas grave. Je peux bien conserver une poire pour la soif, mais bien sûr qu'il était libre. Il n'y avait pas d'imposition. Mais il devait prendre Dieu au sérieux. Et c'est là la leçon que je voudrais que vous ayez retirée hier soir, prenant Dieu au sérieux. Parce que c'était le début du commandement de l'Église et il fallait qu'un exemple soit donné. Et ce couple du chapitre 5 nous montre ce qu'est le péché qui conduit à la mort. Vous avez déjà entendu parler d'un péché qui conduit à la mort? C'est l'apôtre Jean au chapitre 5, verset 16 de sa première épître, qui nous dit qu'il y a un péché qui conduit à la mort et que pour ce péché-là, on ne peut pas prier. Or, il n'est pas défini ce péché qui conduit à la mort. Le péché qui conduit à la mort, ça peut être une chose, ça peut être une autre. C'est un péché qui nous retranche. Quant au témoignage, je l'ai souligné, je ne vous dis pas qu'Ananias et Saphira sont perdus. Je peux croire à la réalité de l'œuvre de Dieu en eux. Mais ils n'ont pas persévéré et ils ont été retranchés. Ils sont sauvés comme au travers du feu. Mais votre vie de chrétien, elle a une valeur infinie, c'est un capital. Et c'est pourquoi vous devez apprendre à compter vos jours pour que vous en ayez un cœur sage. Et le cœur sage, il juge le péché que l'on voit dans la chair. Le péché est dans la chair, mais nous sommes morts au péché. Nous nous tenons pour morts au péché et pour vivants pour le Christ. C'est là le secret de la vie chrétienne normale. Accepter de mourir dans la mort de Jésus, et il faut y passer, et puis accepter alors de vivre de cette vie de résurrection de Jésus. De sorte que si vous faites du bien, ce n'est pas votre chair qui le fait, c'est Jésus en vous. La vie de Jésus est manifestée dans votre chair mortelle. Donc aucune gloire pour vous, pour moi, pour nous, mais toute gloire pour le Seigneur. Non point à nous, mais à ton nom donne gloire. Alors, pour Ananias et Saphira, ça a été le péché qui a conduit à la mort. Dans l'Ancien Testament, on voit aussi la gravité pour les serviteurs de Dieu. C'était Nadab et Abihu, qui étaient fils de qui? D'Aaron, le grand sacrificateur. Ils devaient offrir le feu selon les ordres du Seigneur. Et ils se sont permis d'innover. Ils se sont permis de faire autrement que le Seigneur avait dit, de présenter un parfum qui n'était pas celui que le Seigneur voulait, mais ça devait passer. Comme aujourd'hui, chacun dans l'œuvre de Dieu pense qu'on peut faire ce qui plaît à nos yeux, et l'on s'inspire du monde, comme David qui s'est inspiré des Philistins pour faire un chariot et conduire l'arche. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la mort d'Uzza, le sacrificateur, parce qu'ils n'ont pas résisté. Si les sacrificateurs, si les conducteurs spirituels ne sont pas à leur place et ne résistent pas, s'ils préfèrent être populaires et répondre aux désirs de la foule, eh bien, il y aura des conséquences qui sont tragiques. c'est toujours la mort. Tandis que l'obéissance, eh bien, ça nous amène des souffrances. Mais ces souffrances, on peut les endurer par la puissance du Saint-Esprit. Souffre, dit Paul à Timothée, par la puissance de Dieu. Et j'ai besoin du Saint-Esprit pour pouvoir traverser ce monde et tout souffrir parce que nous voulons rester fidèles à ce que le Seigneur nous a demandé. Nadab et Abihu, fils d'Aaron, n'ont pas été épargnés. Ils sont tombés morts devant le sanctuaire et Aaron n'a pas pu même les pleurer. Dieu lui a dit, tu ne porteras pas le deuil. C'est quelque chose de sérieux et nous avons besoin de retrouver cette crainte du Seigneur, cette peur de lui déplaire. Alors, dans l'Église primitive, le résultat de cette discipline a amené la bénédiction. Une fois que Ananias et Saphira ont été ensevelis, eh bien, on a vu que Pierre avait pu faire des miracles et des prodiges. On avait jugé le péché, mais tant que les églises tolèrent le péché et que les chrétiens ne veulent pas se juger, eh bien, que se passe-t-il? Eh bien, c'est la mort, c'est ce que nous disions hier, c'est souvent le cimetière. Alors, hier encore, nous avons vu trois délivrances à la suite de, à la fin de ce chapitre. Il y a eu la délivrance par le Saint-Esprit, quand l'Église a été purifiée d'Ananias et Saphira. Il y a eu la délivrance par un ange, et puis il y a eu la délivrance pour les apôtres par la sagesse d'un homme qui s'appelait Gamaliel. Dieu peut permettre à un certain moment qu'un homme même qui ne le connaît pas soit assez sage pour arrêter certains dans leurs projets. Dieu peut employer qui il veut, comme il a employé Cyrus, un païen, en réveillant son esprit pour accomplir sa volonté. Il peut employer même un païen, quelqu'un qui ne le connaît pas encore, pour accomplir ses desseins. C'est pourquoi nous sommes en paix. Nous prions pour tous les hommes, nous prions pour Gorbatchev, comme nous prions pour Bush. Nous ne faisons pas de politique, mais ce sont des hauts placés, et nous avons à prier pour eux, quelle que soit leur idéologie. Parce que quelquefois, le Seigneur permet un gouvernement comme un châtiment pour un peuple. Alors, nous voulons être occupés du Seigneur. Maintenant, avec le chapitre 6, ayant échoué avec l'histoire d'Ananias, Satan s'attaque autrement à l'intérieur de l'Église. Par quoi? Le deuxième péché qu'on voit dans l'Église, c'est les murmures. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Et vous savez, c'est peut-être bien aussi de lire cela au Québec. Maintenant qu'il y a un tournant dans le Québec et que l'on voit ce qui ne se voyait guère autrefois, beaucoup de personnes qui se tournent vers le Seigneur, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Il y a eu tout à coup une question de racisme. Je ne peux pas entrer dans le détail, mais il y avait des veuves qui venaient de l'extérieur d'Israël, mais qui étaient juives aussi, ou prosélytes. Et puis il y avait les veuves qui étaient du pays. Alors on faisait des différences. Et il y a eu des murmures parce que certaines veuves étaient négligées dans les distributions qui se faisaient chaque jour. Alors, que fallait-il faire? Comment est-ce que les apôtres ont réagi devant cette difficulté? Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ils ne pouvaient pas tout faire. Et alors, ils comprennent qu'il y a des tâches qu'ils doivent céder à d'autres. Et ils sont heureux de les céder, dans la mesure où il y a les éléments qui peuvent faire ce service. Mais ce que vous verrez, c'est que il est demandé beaucoup pour ceux qui serviront aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous, pas n'importe qui, pas des gens qui s'offrent comme cela, choisissez parmi vous cet homme de qui on rende un bon témoignage. Vous voyez que c'est toujours le témoignage. Il faut avoir un bon témoignage pour le plus humble des services pour Dieu. Et il faut que ces hommes soient pleins de l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'ils aient fait la preuve qu'ils sont remplis d'esprit, qu'ils ont donné les clés du grenier et de la cave, si j'ose dire ainsi, hein. Et pleins non seulement du Saint-Esprit, mais de sagesse. Et nous les chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée, et alors ils élurent Étienne, homme plein de foi et de l'Esprit Saint. Vous voyez, il fallait être plein de l'Esprit, mais aussi plein de foi. Et ils en ont trouvé d'autres, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et on les présenta aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et qu'est-ce que c'est que cette imposition des mains? C'est une identification des apôtres aux diacres. Ils ont mis les mains sur eux, s'identifiant à eux comme reconnaissant que c'est vraiment Dieu qui les a choisis et ils prient pour eux comme ils prieraient pour eux-mêmes. Et la parole de Dieu, alors, après cette institution des diacres, dont vous voyez les caractères dans le chapitre 3 de la première épître à Timothée, je ne peux pas en parler, mais je vous cite le texte si vous voulez savoir davantage sur les diacres. Attention, hein, quand il est question de nommer des diacres dans une église, n'importe qui ne peut pas être nommé diacre simplement parce qu'il est dévoué. Il faut qu'il ait les qualités qui sont mentionnés dans ce chapitre 3 de la première épître à Timothée. Alors, verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et même une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Alors qu'au début, il y avait des personnes pauvres, de basses conditions, voilà qu'on arrivait à toucher une classe plus élevée. Mais notez bien la parole, ils obéissaient à la foi. La foi, c'est la révélation des choses du Christ, l'ensemble des vérités chrétiennes. Quelquefois, la foi nous est donnée comme l'ensemble des vérités du christianisme, et on obéissait à la foi. C'est une obéissance, la foi, qui se manifeste dans nos actes. Et alors, on retrouve notre Étienne plein de grâce. Vous voyez, vous pouvez noter plein du Saint-Esprit, plein de foi, plein de grâce, puis plein de quoi encore? De puissance. Il avait vraiment cet esprit de sagesse, de puissance et de conseil dont parle l'apôtre Paul dans le premier chapitre, de la deuxième épître à Timothée. Il n'avait pas un esprit de crainte. Et il faisait de grands prodiges et des miracles parmi le peuple. Il avait accepté donc cette tâche toute humble de servir aux tables, mais bien vite, cette tâche a été dépassée, et comme il avait le don et que c'était manifeste, eh bien, il s'est adonné à témoigner publiquement. Alors, verset 9, quelques membres de la synagogue, dites des affranchis, de celle des Cyrénéens, de celle des Alexandrins, avec les Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Dans les synagogues de ce temps-là, il y avait plusieurs partis, et ils ne s'aimaient pas toujours, chacun essayait d'attirer vers sa synagogue, comme aujourd'hui, il y a plusieurs milieux chrétiens, et quelquefois c'est triste, quand une âme vient de se tourner vers le Seigneur, on voudrait presque l'écarteler. Il y a un milieu qui voudrait un bras, et il y en a un autre qui tire sur une jambe. On se bagarre pour savoir qui va baptiser, si ça sera dans tel milieu ou dans tel autre, au lieu de demander au Seigneur que le Seigneur conduise cette âme. Ils viennent d'un système où ils ont souffert, et puis qu'est-ce qu'ils trouvent? Des divisions et des prétentions. On dit, c'est nous qui sommes dans la vérité. Les autres disent, non, ils ne sont pas dans la vérité, ils n'ont pas le plein évangile, c'est nous qui avons le plein évangile. De sorte que ces âmes qui auraient besoin de tendres soins, qui auraient besoin d'être comprises, elles sont désorientées. Et au lieu de les remplir de la connaissance du Seigneur, dans bien des milieux, on commence à les enseigner sur toutes les erreurs du système qu'ils ont quitté, alors qu'ils ne connaissaient pas même bien leur Église. Qu'ils ne savaient guère qu'ils avaient été de mauvais chrétiens dans cette église, ils ne connaissaient pas même bien leur église, mais maintenant ils connaissent les erreurs de cette église. Et qui leur a enseigné ces erreurs? Eh bien, c'est nous. On leur a montré, au lieu de les faire grandir dans le Christ, d'aimer le Christ, et non pas de d'en faire des révoltés et des gens qui méprisent le lieu où ils sont nés, et même leurs parents, qui n'avaient pas les connaissances, qui n'ont pas pu les élever dans les connaissances bibliques, ils n'avaient pas la Bible, mais qui ont pourtant eu quand même la crainte de Dieu. Et c'est pourquoi nous nous efforçons de montrer à un converti que son premier témoignage consiste à honorer son père et sa mère. Tu te dis converti, ne va pas raconter que d'abord tu es maintenant dans la secte ou dans le milieu que eux appellent une secte et que c'est là qu'est la vérité. Montre par ta vie que tu es transformé. Va demander pardon à ton vieux père, va demander pardon à ta vieille mère. Et qui, dans ses prières, qui n'étaient peut-être pas adressées directement au Seigneur, mais à Marie ou à quelques saints, eh bien, dans leur ignorance, ils s'adressaient où ils pouvaient, eh bien, va leur demander pardon, parce que tu te droguais, parce que tu buvais, parce que tu courais les filles, et tu leur faisais honte, va leur demander pardon, et puis n'essaye pas de les enseigner, mais montre que ta vie est transformée. Et c'est eux et qui vont te questionner. Et alors, tu seras toujours prêt à répondre avec douceur et crainte à quiconque te demande la raison de l'espérance qui est en toi. C'est une autre manière de faire, comprenez-vous? Et il y aurait eu moins de drames. Au lieu de dire aux jeunes, tu sais, ne t'en fais pas, hein, tes parents ne te comprendront pas, tes parents te chasseront peut-être de la maison, hein, parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée et la division. On leur donne ce verset pour les consoler. Et il nous faut cette sagesse. Alors je crois que Dieu peut nous la donner. Et ma mission, ce que je ressens, c'est d'essayer de faire comprendre cela pour qu'il y ait un autre esprit et que le Seigneur puisse nous employer avec davantage de fruits et du fruit et qui demeure. Car quand nous prêchons l'amour dans la vérité, en ne biaisant pas avec la vérité, le Seigneur donne sa bénédiction. Alors nous continuons. Est-ce que vous voulez changer de place? Soyez libres. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous bénissons le Seigneur pour le soleil, mais nous le bénissons aussi pour l'ombre. Hein? Et ceux qui sont refroidis peuvent aller se réchauffer. Hein? Alors, Étienne était tellement dans la dépendance du Seigneur qu'il est dit au verset 10 que ces gens qui voulaient discuter avec lui, ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il voyait bien que ce n'était pas à lui qui parlait, mais il y avait l'esprit en lui. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Ils soudoyèrent. Vous voyez de nouveau, qu'est-ce qu'on emploie? L'argent, hein? Des hommes. Ils ont fait comme les sacrificateurs pour soudoyer les gardiens du sépulcre de Jésus, hein, pour dire des mensonges. On les a payés pour mentir. Et ils leur dirent de témoigner contre Étienne, en disant, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre qui? Contre Moïse. Alors évidemment, comme ce sont des Juifs, et que Moïse est le grand homme d'Israël, donc c'est grave, contre Moïse, et Moïse étant le serviteur de Dieu, contre Dieu. On peut toujours nous accuser de ça, et de fausses doctrines. Ils émurent le peuple, les anciens, les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin, qui était donc le tribunal juif. Et ils produisirent de faux témoins. Je vous ai dit, c'est une des choses que nous pouvons trouver dans les actes, les faux témoins. Et à travers toute la Bible, on a fait venir des faux témoins contre qui? Contre Jésus. Et on a pris des paroles de Jésus pour les tordre. C'est vrai qu'il avait dit « Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours ». Mais c'était le temple de son corps. Il n'allait pas plastiquer le temple, pas du tout. C'était pas un terroriste. Eh bien, voilà, ce pauvre Étienne, il est aussi taxé de vouloir tout changer. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu. Vous voyez, c'est une vieille histoire, on reprend ce verset de Jean 2, et qu'il changera les coutumes que Moïse nous a données. Alors, voilà, Étienne est là, on l'a amené, mais tout d'un coup, ces gens qui allaient le juger, quand ils le regardent, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur apparut comme celui d'un ange. On peut être arrêté, on peut être devant ses juges, mais on est dans une paix totale. Il n'est pas là tremblant. Ça me fait penser à Belshazzar dans Daniel. Ses genoux s'entrechoquaient tellement il avait peur. Tandis que quand on est dans le Seigneur, on est en paix. Son visage était rayonnant. Il n'avait pas mauvaise conscience. Alors, chapitre 7, on y arrive. Le souverain sacrificateur dit, « Les choses sont-elles ainsi? » Comment est-ce que vous auriez commencé? Donc, on lui donne l'occasion de se défendre. Et moi, je trouve admirable comment Étienne a compris sa défense. Est-ce qu'il va parler de lui? Est-ce qu'il va dire, ce sont des menteurs, ces accusateurs? Il ne parle rien de cela. Et il parle avec une dignité merveilleuse. Homme, frère et père. Il les respecte. Homme, frère et père. On dit, mais frère, vous appelez ça frère? Mais en Adam, on est tous frères, oui. Homme, frère et père. Père, écoute. Et il commence par leur parler du Dieu de gloire. Que c'est beau. Le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établisse à Charan et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Nous savons qu'Abraham vivait au sein de l'idolâtrie qui avait succédé à la tour de Babel. Après le déluge, le monde était retombé dans l'idolâtrie. On ne connaissait pas le vrai Dieu. La connaissance de Dieu, elle s'était de plus en plus perdue. Ayant connu Dieu, on ne l'a pas glorifié comme Dieu. On devint vint dans notre intelligence, le cœur destitué, fut rempli de ténèbres, et puis ils ont changé la gloire de Dieu en des images d'hommes corruptibles, d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. Voilà cette dégénération du culte à la divinité. Et au milieu de cette idolâtrie, Dieu apparaît à Abraham et l'appelle. Il sortit alors du pays des Chaldéens, donc il a obéi. Abraham a obéi à cet appel. Et il s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Térakh, donc, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Donc, il commence à leur remémorer une histoire qu'ils savent bien et qu'ils peuvent écouter. Et comme c'est exact, c'est vrai, c'est leur religion, il leur parle des choses justes. Dans leur religion, il n'a pas renié certaines choses. On peut commencer par souligner des vérités. Les milieux évangéliques, il faut qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas commencé l'histoire de l'Église. Il y a eu l'Église primitive, qui était vraiment catholique dans le sens universel, mais qui n'était pas romaine. Tout cela s'est corrompu après, mais il y a des vérités essentielles desquelles on peut partir, et c'est ce que nous montre ce merveilleux discours d'Étienne. Pour pouvoir avoir l'oreille de ces scribes de tout ce monde, ça ne veut pas dire qu'il va réussir, mais il va leur dire l'essentiel. Dieu ne lui donna pas de propriété dans son pays, pas même pour poser la plante de son pied. Quoiqu'il n'ait pas eu d'enfant. Mais il lui promit d'en donner la possession à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait pas d'enfant à ce moment-là. Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira à la servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Là, on l'écoute parce que ça correspond à tout ce qui est connu et vrai dans leur religion. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi, dit Dieu, qui la jugerai. Après cela, ils sortiront et me serviront dans ce lieu-ci. C'est le livre de l'Exode. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncit le huitième jour. Isaac engendra et circoncit Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Donc, il a commencé par les patriarches, Étienne, dans son discours. Les patriarches jaloux de Joseph, on ne peut pas nier la chose, le vendirent pour être emmenés en Égypte. Et voyez-vous, il va commencer de montrer que les patriarches israélites, eh bien, ils ont été jaloux d'un de leurs frères. Et Joseph est un type de qui? De Jésus. Les Juifs, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Ils ont dit, voici l'héritier, tuons-le. Alors, il met Joseph en avant. C'est une figure, n'est-ce pas, qui peut commencer à leur parler. On est toujours les mêmes. Eh bien voilà, ce que les Juifs ont fait, ce que les Israélites, les fils des patriarches ont fait à leur frère, à Joseph, au fond, on l'a fait. Mais il ne le dit pas encore. Il laisse la parole faire son œuvre. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui. Et c'est toute l'histoire de Joseph. Et il le délivra de toutes ses tribulations. Est-ce que c'est vrai? Oui. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce, même devant le Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint, bien sûr qu'il ne peut pas tout raconter, mais enfin, c'est un résumé. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande. Et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. On se dit, mais enfin, où est-ce qu'il va cet Étienne? De quoi est-il question?
Il saisit l'occasion. Voilà, il a la sagesse de saisir l'occasion. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, et il envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et le Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille. Oh, ils allaient bientôt savoir aussi de quelle famille était Jésus. Cette famille composée de 75 personnes. Mais on est obligé de survoler, je dois aller vite. Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères, et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils d'Amor, père de Sichem. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que, Étienne parlait, c'était un discours oral, et où il y a eu erreur de copiste, mais enfin, il y a des explications sur lesquelles on pourrait revenir, mais ce n'est pas ça qui a de l'intérêt pour nous dans ce récit. Le temps approchait, verset 17, où devait s'accomplir la promesse de Dieu que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. À cette époque naquit Moïse. Et qu'est-ce qu'il va dire de Moïse? On l'a accusé de ne pas suivre Moïse. Eh bien, il parle simplement de Moïse. Et que dit-il? Il était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille du Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Quand Dieu supervise tout. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en œuvre et en parole. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accorderait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux, alors qu'ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Homme, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ? » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian et il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson de feu. Et vous voyez, on l'interrompt pas. C'est toujours de leur religion. Ils peuvent contrôler. C'est des choses justes qu'il leur dit. Et ils sont d'accord. Ils ne peuvent pas se dresser contre lui. Et il voit simplement qu'il a une connaissance extraordinaire de la parole. Moïse, voyant cela, donc, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « Ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Je suis descendu pour le délivrer. » Vous voyez, Dieu est témoin, ce témoin dans les nues dont parlait Job. Il avait vu aussi la souffrance d'Israël. Maintenant va, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse, qu'ils avaient renié, vous voyez là, il a parlé de Joseph. Puis maintenant, ce Moïse, qu'ils avaient renié, c'est encore un exemple qui va préparer son témoignage sur Jésus. On a renié Jésus, comme on a renié Moïse. C'est toujours une flèche qui entre, il y va progressivement. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « qui t'a établi juge », c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge, au désert, pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Et de qui va-t-il parler ? De Jésus, n'est-ce pas ? Il l'y prépare par leurs paroles, par des choses qu'ils connaissent et qui sont irréfutables, des choses contre lesquelles ils ne peuvent rien dire, il les prépare. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait de la montagne du Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, et ils le repoussèrent, et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu, comme on disait qu'on ne savait pas d'où Jésus venait. » Et en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole, et ils se réjouirent de l'œuvre de leurs mains, c'est le veau d'or. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. Ils sont devenus des adorateurs des astres. Selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes, c'est dans Amos, « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël ?» Oui, il y avait des sacrifices, mais ce n'était pas cela que le Seigneur voyait. « Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu renfant. » Ce sont des idoles. Ce sont ces images que vous avez faites pour les adorer. C'était l'armée du ciel. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'ils avaient vu. Et nos pères l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. Vous voyez, il refait toute l'histoire d'Israël. Il arrive maintenant à la royauté, après avoir passé par Moïse. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Puis voilà, la péroraison, tout à coup il s'écrie, homme, au cou raide, lui qui devait être jugé, face à ses juges, parle à leur conscience, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Outrage aux magistrats. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Maintenant, il arrive à cela. Que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avaient point gardé. Ah, mes amis, c'est à cela qu'il faut arriver. Mais il faut de la patience. Je me souviens d'un jour, en 1953, à Tunis, justement, j'étais devant un groupe de 400 à 500 juifs uniquement, et je devais leur faire une conférence. J'avais pris comme thème la gloire d'Israël. Et alors, je m'étais inspiré de cette manière de faire, puis j'étais au milieu des Juifs, de leur parler de choses qu'ils connaissaient bien d'abord. Mais il faut que j'aille plus loin, il faut que j'arrive à leur montrer que leur sujet de gloire, c'est le Messie, c'est Jésus. Alors, on sent une attention fantastique tant qu'on est dans l'Ancien Testament, mais quand on doit arriver, on a plutôt l'impression qu'on devrait s'arrêter.
Oui, c'est bien allé, ils ont bien écouté, c'était une belle conférence, hein. C'est pas ça, il faut aller plus loin. Et c'est là hein, que le Saint-Esprit nous poigne et nous fait aller plus loin. Et le Seigneur bénit. Alors, il y a des réactions, verset 54. En entendant ces paroles, maintenant qu'ils se sont concernés, parce que c'est ce qu'il faut, et s'il y a des contestations, n'est-ce pas bien, c'est bon quand même. Il faut que vous vous sentiez touché, non pas visé, je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous pensez, ce que vous êtes, mais il faut que la parole vous concerne. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient les dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards, où ? Sur les gens qui grimaçaient, comme quand on mange du chewing-gum, grinçait des dents sans chewing-gum. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. C'est beau. C'était ça sa vision. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors, ils poussèrent de grands cris. Et c'est ça qui est fantastique. Il était debout. Pourquoi ? Parce qu'après, vous le voyez assis. Qu'est-ce que ça signifie ? Dieu donnait encore à Israël l'occasion de se repentir. Le Seigneur serait revenu. Mais c'est à ce moment-là qu'Israël a signé sa condamnation et sa dispersion parmi les nations. Parce que Dieu leur donnait une seconde occasion. Israël a eu l'occasion, par le témoignage d'Étienne, de reconnaître son erreur. Le Seigneur était encore debout pour apporter la délivrance à Israël. Et ils poussèrent alors de grands cris, et se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, ils le prenèrent hors de la ville, et ils le lapidèrent. On a essayé de rendre cela bien misérablement aux enfants hier. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme, nommé Saul, et ils lapidaient Étienne, qui priait, et disait, « Seigneur, reçois mon esprit. » C'est pour ça que j'ai souligné, au sujet de la mystérieuse, qu'il a parlé comme Jésus parlait. Ces dernières paroles correspondent aux paroles de Jésus. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Qu'est-ce que vous préférez comme mort ? Mourir comme Ananias et Saphira, qui ne sont pas sur la rue, qui ne reçoivent pas des gros cailloux comme ça, ou bien mourir sur la rue, assommé par des cailloux. Il n'est pas dit qu'Ananias et Saphira se sont endormis, mais Étienne, sous les cailloux, il s'est endormi, comme s'il était dans son lit. Peu importe, pourvu que, dans ces derniers moments, on voit qui ? Le Seigneur. Ananias et Saphira, ce n'était pas le Seigneur qui voyait, c'était leur péché. Alors, que le Seigneur nous parle. Quel titre donneriez-vous ? C'est à vous de savoir ce qui vous permet de mieux vous rappeler de ces événements. Chapitre 6. On pourrait mettre, c'est une suggestion, les diacres. Hein. Les diacres, hein, diacres. D-I-A-C-R-E-S. Puisque c'est l'institution des diacres. Puis, on sait que c'est Étienne qui est un des premiers diacres, le chef des diacres, si vous voulez. Et puis, le chapitre 7, alors, Étienne, hein, c'est la prédication d'Étienne. Alors, on sait ce qu'il y a. De sorte que ce soir, si vous êtes d'accord, nous passerons au chapitre suivant, qui est le chapitre 8e.
y a 40 versets.